À quoi tu penses?
It's just music.
This will twist your head.
Oh, bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça?
Restless.
Sur Lex Stories et c'est toujours Restless. Ce sera peut-être déjà la partie 2. Hein. C'est toujours le petit problème à diviser une émission de 2 heures en 2, mais on va réussir à retomber sur nos pieds. On est toujours à Liège, dans les bureaux de Luck Music, et on a décidé là d'entamer un sujet un peu compliqué actuellement. C'est le monde de merde dans lequel on vit. Ah, ça c'est le carton à côté qui vient de lâcher. Et comment on se projette en octobre 2020, où on sent clairement que là on va passer un hiver tout pourri, puisque déjà de base, il faut le dire, en Belgique il fait pas beau. Là on est parti pour 5 mois de pluie, et si en plus il n'y a pas les concerts en intérieur pour faire la fête, ça va être très long. Donc maintenant que j'ai mis le moral à fond, je sais pas vous comment vous projetez pour l'hiver à venir, mais j'espère pas trop mal, hein, parce qu'il faut qu'on survive quand même.
Bah écoute, on va se faire aspirer l'âme par des jeux vidéo à la con sur nos mobiles, hein, voilà, c'est ça le plan, comme t'es arrivé ce matin.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, putain. Je vais pas faire de pub pour un jeu chinois, parce que la Chine... voilà, mais ouais, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi.
Non, bah écoute, ouais, le monde de merde dans lequel on vit, je crois que c'est... quand je le disais avant la musique, on vivait dans un monde de merde avant aussi, hein. avant. Mais...
Yannick a une vision des choses assez...
dark.
Ouais, et où en fait, ça ne fait que commencer, donc c'est-à-dire que là, on a atteint un point de non-retour et que ça ne fera que s'empirer, que là les gens sont déjà un peu vénères, surtout les gens dans la culture, et avec raison, mais ce sera autre chose quand on n'aura plus à bouffer, quand... Voilà.
Ah, moi je passe par des phases, il y a des phases où je me dis bon bah apocalypse machin, et des phases où je me dis ah peut-être que ça peut tenir si on change ça et ça.
Ouais, je suis plus du côté de JB aussi, mais... Je suis quand même plus du côté aussi, c'est clair que genre il y a quand même beaucoup de problèmes qui sont à la porte et qui seraient très intéressants de régler, ouais, assez rapidement, mais
si on veut pas mourir,
voilà, on est beaucoup de gens sur cette planète à avoir des responsabilités individuelles, et j'ai l'impression qu'il y a une certaine résilience, en tout cas du milieu culturel dans un premier temps, pour faire mieux avancer les choses et mieux, donc j'ai espoir, mais j'ai peur.
C'est un sujet, moi, que j'aborde peu, mais de base, j'ai toujours été assez militant. Avant d'être dans la musique, en fait, j'étais déjà pas mal investi quand je pouvais dans des actions politiques. Et j'ai arrêté un peu cet investissement parce que c'était en accord aussi, enfin, j'étais en accord avec ça, mais je trouve que le fait de travailler dans la musique et d'aider à la diffusion et d'aider des gens à créer, et je parle vraiment de la musique côté artisanat plutôt que industrie, puisque c'est ce qu'on fait plus. Charles de Djerkov m'avait donné cette formule et je la reprends beaucoup, parce que au final, concrètement, c'est l'impression que j'ai moi au quotidien, c'est d'être plus un artisan qu'un industriel. Et est-ce que il y a cet aspect politique aussi dans vos têtes? Enfin, moi, c'est vraiment le cas. Je suis en accord avec moi-même d'être à fond dans la musique et beaucoup moins dans l'aspect politique des choses, parce que j'ai l'impression que c'est politique en fait. De s'intéresser à la culture et de faire en sorte que ce soit le truc qui survive.
Ben, dans l'indé, oui, c'est un système de valeurs, en fait. Et donc, malgré toi, tu milites, en fait, pour une certaine vision des choses, je crois. Donc, oui, après, moi, là, non, vision politique, c'est plutôt... dans le milieu, pour l'instant, c'est être en colère, en fait. Il y a un peu un truc... de colère de pas être reconnu, de pas être aidé de la bonne manière, de pas et voilà, il y a très peu de choses qui nous mettent du baume au cœur en fait, parce que là on est dans des propositions de live assis, enfin il y a rien qui est logique, qui a du sens et qui est adapté à nos métiers. Donc il y a une grosse question de sens.
Ouais, je vais avouer que moi, j'ai pas cette colère, en fait, depuis le début de la crise. Je pense que c'est soit parce que je l'accepte pas, parce que ça me boufferait, soit parce que je me reconnais pas là-dedans. Je suis pas en colère, en fait, sur les décisions prises pour la culture qui nous empêchent de travailler, hein, ça c'est un fait. Mais pour moi, c'est plus du dépit. Vraiment, je n'en suis pas au stade de colère, mais quand je vois que, en fait, les politiques, hein, ne gèrent rien du tout, ils ont aucune conscience de ce qui se passe pour nous, et ils s'en foutent. Et moi, c'est vraiment genre, j'ai du dépit pour eux, tu vois, d'autant s'en foutre du milieu dans lequel on est, c'est justement montrer qu'ils sont dans un autre délire que nous, à fond, et pour eux, le principe. Enfin, le truc principal, c'est le profit, c'est de relancer une économie et créer de la croissance. Et dans notre monde, ça n'a plus aucun sens. Et je pense que dans la culture, ça fait longtemps qu'on réfléchit à ce truc de créer sans chercher un profit. Et pour moi, c'est ça la force. C'est on taffe tous les trois, on travaille sans se dire on va gagner de l'argent. Enfin, on essaie de gagner de l'argent puisqu'il faut qu'on bouffe.
Oui, c'est ça. Mais donc voilà, toutes ces décisions ne sont pas adaptées à nos convictions. Mais après, moi, je ne pense pas forcément à moi, à mon travail, même si pour l'instant, c'est un climat assez déprimant, on va dire ça. Mais je pense à tous les autres, quoi. On n'est pas en première ligne, mais je pense que c'est une catastrophe et une tragédie pour plein de gens, quoi, ou qui sont soit artistes ou qui accompagnent des projets, qui se retrouvent sans boulot et qui doivent changer complètement de vie. Enfin, c'est des mini-cataclysmes dans les vies des gens, et c'est ça qui met en colère, en fait. Et l'irrespect total dans les communications venant de nos représentants qui travaillent pour nous. Il faut quand même le rappeler qu'on les paye et qu'ils sont là pour nous représenter aussi, nous, la culture, et qu'en fait... Non seulement les décisions ne sont pas adaptées, mais elles ne sont pas clairement communiquées. Même quand il s'agit de nous aider concrètement avec un fonds d'urgence, on ne sait pas comment on doit justifier ce fonds d'urgence, comment, quelles sont les conditions. Enfin, c'est un grand n'importe quoi. En fait, ici, il y a encore eu, pas plus tard qu'hier, des nouvelles mesures plus restrictives. Et donc, qui sont mises en vigueur à partir de vendredi. Donc, tous les événements qui sont censés avoir lieu... par exemple samedi, ben qu'est-ce qu'on fait, tu vois, ça chamboule tout et tout ça. Nous, on doit juste passer derrière, essayer de trouver les infos tant bien que mal et faire au mieux. Et donc la seule solution, c'est de flirter avec ce qui est légal, pas légal dans les mesures sanitaires et au risque de se prendre des amendes, mais on n'a juste pas le choix, en fait. Donc voilà. Et après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la vision d'Yannick en tant que booker, quoi. Comment t'envisages ton boulot et en fait le futur, les années à venir, quoi, dans ces conditions.
Bah écoute, métier de booker, moi j'ai commencé il y a un an et demi, deux ans, en tant que vrai booker au sein d'une agence qui fait vraiment ça. Au début, je faisais vraiment ça pour moi-même, en mode DIY, donc c'est tout un autre métier. Mais c'est vrai que la suite, je l'imagine plus, mais je la ressens déjà un petit peu maintenant, sur une vision et un travail vachement plus local, et circuit plus direct et plus rapproché. J'ai l'impression qu'on va moins booker, en tout cas moi c'est ma vision mon expérience personnelle, c'est que moi je ne book plus des, là je vois les grosses agences qui bookent et qui annulent et qui reportent pour 2022 2021, alors que moi genre je suis plus sur novembre, décembre, et je suis toujours en train de bosser sur des dates en novembre. Donc j'ai envie de travailler sur un circuit plus court, plus local, et avec lequel je m'y retrouve plus. J'ai l'impression que de m'imaginer dans un an, j'ai pas envie de travailler à m'imaginer dans un an. Ça, à l'heure actuelle, ça ne me convient pas.
J'ai beaucoup de respect pour le métier de booker. Pour ça, c'est moi, j'ai pas mal de potes bookers en France sur des trucs internationaux et tout. C'est cette capacité de travailler pour tout déconstruire une semaine après à cause des... Moi, c'est un truc vraiment... Je sais que je serais incapable, parce que s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est ça, c'est travailler dans le vide. Et ça me rendrait fou. Et ça, j'ai beaucoup de respect.
Bah oui, c'est pour ça que je l'expliquais auparavant. Je préfère travailler sur du court terme que essayer de m'imaginer en mai 2021 une date au réflecteur. Je sais même pas si le réflecteur existera encore ou si les gens qui travaillent là seront pas reconvertis aussi, parce qu'on parle beaucoup de reconversion professionnelle à l'heure actuelle. Donc il faut faire les choses au jour le jour. Je croyais que c'est comme ça qu'il y a un peu plus de... Et c'est comme ça qu'on sort... Moi, c'est comme ça que je m'en sors dans ma tête et avoir un peu l'excitation permanente parce qu'il y a toujours des trucs qui se passent à très court terme. T'es là, ben, vendredi, je vais sortir à Bruxelles, ça va être super. Plutôt que d'imaginer, j'ai mon ticket pour Idols en 2021.
Ah ouais, moi j'ai mon ticket pour Idols en 2021. Ouais, ça, voilà, ça, c'est un petit phare dans la nuit, ça fait du bien quand même. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi du retour au local et aux Belges, donc en l'occurrence.
Ouais, moi, sur mon rooster, ici, j'ai des groupes inter et c'est vraiment des projets que je suis vraiment en train de bosser à l'heure actuelle parce que je ne sais pas dans quelles conditions ils vont pouvoir me traverser leurs frontières, dans quelles conditions ils vont pouvoir prendre l'avion, prendre un van et circuler en Europe. Donc voilà, c'est vraiment les projets sur lesquels je me concentre, c'est du développement de projets locaux ou de projets belges, en tout cas sur lesquels je sais que je vais pouvoir trouver des dates dans une semaine, dans telle arrière-salle d'un pub. Et voilà, je crois que la culture à l'heure actuelle, en tout cas en Wallonie, va être très, très illégale.
Moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur, vu que bah, je suis français, je suis arrivé il y a 2 ans pour créer des ponts. Ce qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai peur de se replier un peu local, puisque même si c'est super important et je suis à fond derrière ces idées-là, dans plein de domaines et aussi dans la musique, mais ce que j'ai vraiment envie de faire, moi, c'est de créer donc, ces fameux ponts entre des villes comme Tours, Liège, tout ça, sachant que je me rapproche de certains politiques dans chaque ville et tout, donc j'ai des idées de créer des jumelages ou des événements sur les deux villes. Et ce repli-là...
Enfin, en tant que musicien, j'ai toujours aimé essayer de m'exporter au plus, ne jamais trop rester sur moi-même. Parce que genre, tu commences un groupe à Liège, avant le Covid, avant toute la crise, tu pouvais jouer tes 5 concerts aisément sur l'année. Et moi, quand j'ai commencé la musique et des groupes de musique, j'ai toujours voulu essayer d'aller jouer ailleurs que chez moi, parce que genre, jouer pour tes copains, c'est facile, c'est pas très sexy. Et c'est vrai que la fermeture des frontières, je suis en train de mettre des guillemets sur un podcast, c'est plus arrivé depuis longtemps et c'est vraiment un truc qui va changer un peu la vision des échanges et du partage.
Oui, c'est ça. Et puis quel est le sens aussi de faire quand même des festivals avec que des groupes belges où il y aura que des Belges. Enfin voilà, c'est super d'un côté parce que ça permet peut-être à des projets assez jeunes d'être enfin sur une scène comme Dour où ici il y a le 50 Lab qui aura visiblement lieu et qui fait sans avoir trop le choix mais qui fait un line-up 100% belge ou presque 100% mais j'imagine que c'est 100% et voilà, mais qui sera là sans doute que des Belges ou très peu de Français vu que personne n'a envie de se taper 14 jours reclus, déjà qu'on vit reclus chez nous là, beaucoup plus qu'avant. Donc ouais, à part l'aspect positif, c'est peut-être d'avoir plus de place donnée aux projets belges et qu'ils se fassent un peu leurs armes sur des scènes plus impressionnantes et aussi de pouvoir militer en faveur de certains quotas, pas forcément de festivals ou de programmation en salle, mais sur les radios notamment, où là c'est un gros problème. Mais il y a une mobilisation comme ça autour des projets belges qui est peut-être positive, en fait.
Bah, c'est clair que nous, une structure comme l'œil, ou même toi pour JO, Jaune Orange, c'est pratique pour nous, parce qu'on n'a pas la force de Live Nation, tout ça, qui, eux, comme tu le disais, travaillent plus du tout en 2020, et ils se préparent pour septembre 2021, pas avant. Donc, du coup, ça laisse de la place pour des plus petites structures, d'avoir des slots peut-être plus intéressants qu'on n'aurait pas forcément eu avant. Mais c'est vrai que, voilà, c'est... compliqué.
Bah, étonnamment, j'ai plus de résultats à l'heure actuelle qu'avant la crise. Hein.
Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que tous les grands groupes, en fait, mais ça, c'est vraiment. J'essaie d'avoir cette analyse-là pour aussi me motiver un peu et tout ça, mais je pense que des structures comme les nôtres, au final, vont. Si elles arrivent à survivre financièrement, ce qui est vraiment l'enjeu, en fait, faut qu'on arrive à tenir. Mais je pense pas que cette situation va durer indéfiniment, comme certains disent. Je le vois pas parce que même philosophiquement, les gens vont péter un câble forcément. D'un moment ou un autre pour avoir ce besoin de se retrouver et faire la fête. Et d'ailleurs, j'ai hâte.
Oui, c'est ça. Et en fait, très égoïstement, je pense que on va bien s'amuser, en fait, si nos groupes sont programmés à fond. Et oh là là, ça va faire du bien, parce que là, c'est quand même aussi tout le problème de la situation pour nous, c'est qu'on vit déjà dans une situation assez précaire en temps normal. Et ce qui nous fait tenir dans notre passion pour ce milieu et pour nos projets, c'est d'aller voir des concerts, c'est de rencontrer des gens, de réseauter, de boire des bières. Enfin voilà, qu'on se le dise, on est tous des gens qui ont besoin de ça pour se sentir vivre, en fait. Et là, clairement, en tout cas, moi, on se fait chier, quoi.
Bah, ouais, moi, c'est clairement aussi ça qui me pose problème en ce moment. En plus, moi, c'est accentué par le fait d'être arrivé en Belgique il y a que 2 ans. Donc au final, en dehors du travail, j'ai pas eu le temps de créer une vraie vie sociale. Donc vu que tout s'est arrêté un peu, je me retrouve pas mal chez moi à donner mon âme à des jeux mobiles. Ouais, après, voilà, heureusement, je me suis préparé au confinement toute mon adolescence. Je sais ce que c'est de rester dans une pièce devant un écran. Merci World of Warcraft. Mais, du coup, ça me fait pas peur personnellement. Je sais que je vais survivre, mais j'ai besoin d'un horizon de fête. Et pour l'instant, je me rassure en me disant que le premier gros festival, que ce soit Dour en 2022, les transmusicales ou autres, parce que moi, je pense qu'on va reprendre quand même une activité l'année prochaine, mais les gros festivals l'été prochain, j'y crois pas trop. Je pense qu'on va rester sur des jauges assez petites l'été prochain, mais on pourra faire la fête quand même. Mais les gros festivals, quand ça va revenir, j'ai tellement hâte, parce que ça va être un bordel monstre entre les gens et les gens de la musique, parce que comme dit Juliette, la majorité des gens qui sont dans la musique, ils sont pas là pour l'argent, ils sont pas là pour la fame, mais ils sont là parce que c'est agréable que dans le cadre du travail, tu dois être sur des festivals, des concerts, sur une scène, à voir des concerts et voir des copains. Ça reste aussi ça notre travail, même si ça reste du travail, on doit voir les gens, on doit être sobre à peu près. Et savoir être professionnel, régler des soucis, parce que c'est aussi pour ça qu'on est présent sur les festivals. C'est que des fois ça se passe bien, mais des fois il y a un problème, un van qui tombe en panne, un instrument qui pète, faut trouver des solutions. Et c'est vrai que ça me manque extrêmement.
Et si ça continue et que reconversion il y a, vous y avez déjà pensé, vous, ou pas? Moi personnellement pas vraiment, je me vois pas faire autre chose, mais j'aimerais bien imaginer Yannick, devenir...
Poissonnier.
Berger, oui, poissonnier, pêcheur.
Oui, reconversion, ce sera... C'est pas pour maintenant, à l'heure actuelle, j'aurais pu penser à une reconversion si j'avais juste mon groupe de musique, mais là, étant donné que je travaille dans une structure où j'ai un contrat, donc... Là, je ne vois pas de reconversion en vue à l'heure actuelle, mais autour de moi, j'en vois beaucoup, que ce soit notre booker pour Cocaine Peace, que ce soit de Aurélie, la chanteuse aussi, le guitariste aussi. On a vraiment tous des idées de ce qu'on a envie de faire plus tard et dans le cas où ça ne s'améliore pas. Notre booker, là, à l'heure actuelle, il fait plus que ça à mi-temps, il fait plus ça à plein temps et il éduque des chiens pour des personnes diabétiques ou des personnes qui ont eu un stress post-traumatique. Donc, reconversion, what the fuck. Aurélie, elle a commencé à tatouer. Mathias, il fait la bouffe pour les SDF et les gens dans le besoin. Je crois que le métier dans lequel on a évolué, genre le secteur musical, on a toujours fait aller, comme on dirait en Belgique. Et qu'on trouvera toujours un milieu dans lequel on se sent bien d'évoluer et on trouve un peu sa place.
Mais sinon, ouais, les reconversions, je pense que si on doit se reconvertir dans le futur, de toute façon, ce sera le bordel et ce sera plus une notion d'argent, mais d'utilité. Et donc, ça se trouve, ce sera du jardinage. Moi, je suis pas très bon avec mes mains, c'est un peu le problème. Je suis très maladroit et je suis pas très habile, mais je trouverais bien un truc à faire. J'avoue que c'est une question, moi, j'évite d'y penser parce que sinon je ferai la reconversion maintenant, en fait.
Ouais, après, oui. Moi, là, j'ai commencé à faire du collage, c'est super. Donc, je peux me reconvertir éventuellement là-dedans. Ça ne rapporte rien du tout. la couture, faire du pain, tout ça.
Je pense que c'est important de se réapproprier ce genre de truc, ce lien avec soi.
Oui, oui, c'est ça. Hein. On l'a, en fait, ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui a été bénéfique pour tout le monde, du moins au début du confinement, de se remettre à faire des trucs de ses mains et découvrir d'autres choses. Mais après, professionnellement, c'est vrai que moi aussi, j'ai du mal à me dire « Ok, j'en ai quand même bien chié pour arriver à faire le boulot que je fais. Je le fais avec beaucoup d'autonomie et de passion. Mais, et devoir me dire maintenant, il faut dire au revoir à tout ça et faire un boulot de com juste pour avoir des sous, payer son loyer, c'est un peu... c'est encore une fois assez déprimant, quoi. Donc moi, je suis un peu de l'avis de Yannick qui dit « Vivons au jour le jour, semaine par semaine. » Et voilà, sans trop réfléchir à... Enfin, trop réfléchir trop loin.
Ouais, c'est pas forcément... Moi, quand je dis ça, c'est pas forcément pas réfléchir trop loin, mais c'est juste pas s'imaginer, tu vois. Genre, essayer d'avoir des actions vraiment palpables au jour le jour. Et je crois que c'est comme ça que le futur va se construire. Moi, j'ai une bonne idée de track. On parle de local, on parle de futur. Tu peux mettre The Key, The Future is Bright.
Allez, c'est parti pour The Key.
Yeah.
On est de retour sur Restless pour Lux Stories, épisode 2 de l'année 2020, enfin 2020-2021. Toujours en compagnie de Juliette et de Yannick de Cocaine Peace et de John Orange. On en parlait en off, mais on s'est dit, tiens, c'est un bon sujet. C'est les techniques de management, les stratégies de sortie, c'est quelque chose pareil de plutôt flou. Moi, dans ma formation, qui sont les formations d'Issoudun, on a fait des stratégies de sortie. Je sais pas, Juliette, toi qui étais à l'IEX, où vous avez quand même un peu réfléchi à la musique et aux sorties, comment vous avez travaillé ça? Comment c'était présenté?
Alors à l'IEX, j'ai eu zéro cours sur le management artistique ou les métiers de la musique. Donc c'est pour ça qu'au début, je parlais d'un milieu assez opaque et d'un milieu un peu inaccessible où tu sais pas par quel bout le prendre quand tu veux travailler dedans. Mais après, le management, ça c'est... Moi, je suis devenue manageuse par la force des choses, en fait. Moi, je suis arrivée chez L'Oeil, pas du tout avec des ambitions d'être manager d'artiste directement. J'ai dit, ah non, ça, moi, je fais la com. Et puis, petit à petit, on apprend... comment travailler, même en com, les stratégies et tout ça, et ça devient, c'est devenu du management en fait assez naturellement pour plusieurs artistes chez nous, et j'adore ça maintenant, donc c'est vraiment un sujet intéressant.
Ouais, le management, un peu le même rapport que toi quand on me l'avait présenté. Je me disais c'est pas fait pour moi, et en plus le management de projet artistique souffrait beaucoup dans ma tête du mot péjoratif management, qui est quand même très lié maintenant au monde de l'entreprise américain, tout ça, et ça vraiment moi m'a beaucoup bloqué au début, parce que je me disais bah non, j'ai pas envie de faire du management d'artiste dans l'optique de l'épouser au suicide comme à France Télécom, bref, parce que c'était ça hein, le management hein. Maintenant il y a des poursuites en justice pour les gens qui ont donné ces ordres là, mais à une époque le management c'était lié à pousser le salarié à proche du suicide quoi. Donc forcément ça me donnait pas envie, mais c'est vrai que j'ai découvert cet aspect d'accompagnement quotidien et humain, parce que mine de rien l'art, même Pascal Obispo ou Angèle, je pense qu'il y a un vrai côté humain derrière et des humains qui s'entraident et sont bienveillants, je l'espère, parce que c'est pas tout le temps le cas, mais mine de rien on reste dans des relations humaines, et c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui me plaît dans le management. Je sais pas toi, vu que tu manages un peu Cocaine Peace, mais t'es dans le groupe.
Quand tu fais du punk, tu parles pas vraiment de management, hein. T'es plus dans le DIY, et donc le management, c'est ce que tu fais au jour le jour. Y a pas de mots vraiment pour faire des mails, y a pas de mots pour conduire ton van, y a pas de mots pour décharger ton van, y a pas de mots pour faire tes designs toi-même. Donc voilà, c'est juste, tu le fais. Et c'est vrai que comme toi aussi, ce genre de terme, c'est pas le truc qui m'excite le plus. Et au fur et à mesure, quand t'as un groupe qui grandit et qui a quand même plus d'envergure et qui a quand même plus de besoins logistiques et tout ça, c'est vrai que voilà, ça prend plus de sens ce mot, et ça devient vraiment un vrai boulot à part entière, qu'au début on mettait tous un peu la main à la pâte, et le management c'était plus de la débrouillardise.
Je pense que même chez L'Oeil, qu'on fait du management soft, quoi, on pourrait dire ça, parce que il y a tellement un spectre large de manière de manager, de s'impliquer et de prendre la main sur un projet. C'est pas le mot que je cherche. On a compris. Que chez nous on est quand même, on intervient, voilà, c'est ça que je cherchais, on intervient quand même pas dans la direction artistique ou très peu sur les projets, et c'est plutôt comme tu disais des questions logistiques et un accompagnement pour développer, oui c'est ça, pour développer un groupe en fait, l'amener à une étape supérieure. Mais ça dépend aussi de ce que le groupe veut, parce que tout le monde n'a pas envie non plus d'en faire sa vie. Y a beaucoup d'artistes, presque tous, qui travaillent à côté en plus. Donc ça reste du management plutôt logistique en fait, et d'accompagnement plutôt que de diriger vraiment une carrière.
Mais si on en est venu à ce sujet, c'est qu'on commençait à débattre de Idols, puis de Damso, et des stratégies justement de sortie, ce qui est souvent lié au management, au label. Et, et la comparaison était assez pertinente. À la limite, je te laisse parler de Damso, parce que c'est toi qui avais lancé ça, mais c'est vrai que sur Idols, moi, ce que je disais, c'est que le dernier album, hein, qui est sorti il y a deux semaines, l'album est très bien, il s'ouvre avec un morceau, moi, que j'aime beaucoup, mais au final, bah, c'est du Idols, il n'y a aucune surprise. Et contrairement au groupe qu'on met beaucoup en face, Fontaines D.C., où à la limite, moi j'étais beaucoup moins convaincu avant par ce qui sortait, et le dernier album m'a vraiment marqué, parce que bah, ça avait pris vraiment une autre envergure. Et c'est vrai qu'Idols, bah, management anglais, le milieu, l'industrie musicale anglaise a l'air rude, et encore plus en ce moment en temps de Covid, parce qu'eux ils n'ont aucune subside, rien. Donc, bah, y a pas d'argent, y a plus d'argent. On a vu un sondage dans le milieu de la musique classique anglaise, 34% des musiciens vont changer de métier au bout de 6 mois de Covid. Donc, ça va changer beaucoup de choses, je pense, en Angleterre. Et c'est vrai que le management d'Idols ça sent qu'ils avaient en tête de faire du Idols et maintenant faire de l'argent. Contrairement peut-être à Damso et. Je te laisse en parler.
Ouais, oui, c'est vrai que voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi pour Idols, mais en fait, moi, ça me dérange pas trop qu'on enfonce des portes ouvertes quand c'est bien. Et donc, parce que moi, je suis un peu une fan de ce qu'ils font, mais c'est vraiment intéressant cette question de management derrière où en fait, les artistes ont été dirigés, ça se sent très fort, où voilà, c'est vraiment ok, Idols, on continue à faire du Idols et on prend pas de risques, et on sait que les gens vont acheter l'album, donc il y a une dimension, voilà, on veut faire de la thune, quoi, et donc
dimension commerciale, ouais.
Bah oui, c'est un peu la grande critique par rapport à eux, de faire quelque chose qui n'est plus du tout dans l'esprit punk.
De toute façon, dès que ton groupe marche, tu auras toujours... Les gens vont toujours dire que c'est
oui,
la même.
Mais voilà, à l'instar de Damso, donc rien à voir dans le style, mais en fait, où le dernier album, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Damso, parce qu'il y a quand même d'autres polémiques aussi autour de l'artiste, mais il y a au moins une prise de risque où il n'enfonce pas le clou, en fait. Il change complètement. Il ne fait pas ce à quoi on s'attendait. Et c'est quand même assez impressionnant de la part d'un artiste qui est bah là, il a été dans le monde, c'était le plus streamé le jour de son album. Et voilà, pareil, c'est un peu un morceau d'ouverture qui a plu à tout le monde, surtout à JB et à Margot aussi, Bernard. Et après, on part dans un délire qui est pas du tout. Damsoïc.
Bah c'est vrai, et j'étais en train de me dire que c'est peut-être dû aussi aux esthétiques, parce qu'on parle d'un projet rap et d'un projet rock. Le rap actuellement, c'est la nouvelle variété. Là, même les fans de rap et les rappeurs l'avouent, c'est de la nouvelle variété. Donc du coup, tu sors plus du lot quand tu respectes moins les stratégies commerciales. Au final, tu démarques. Et Damso, je pense que c'est ça sa stratégie, c'est de rester Damso un peu à part. Et Idols, le rock, justement, était beaucoup moins mainstream. Et ils profitent un peu de ce retour qu'ils ont créé aussi, notamment. Hein, parce qu'un groupe comme Idols a aidé à remettre le rock sur le devant de la scène comme un des styles qui est toujours présent et important. Et on ne peut pas leur enlever le fait que c'est du rock. Enfin, sur scène, je les ai vus trois fois. C'est un super concert de rock, malgré tout.
Il y a de la transpiration. Ouais.
Bah ouais, ça. Moi, la première fois que je les ai vus, personne ne les connaissait. C'était un de leurs premiers concerts en France. C'était au Printemps de Bourges en 2017, je crois. Et on était 80. Et le chanteur, au bout de 3 minutes, on était fan de lui. Quoi. Il a un charisme et il arrivait, il était à moitié bourré. Mais on savait que c'était vrai et qu'il allait gérer son concert. Et effectivement, moi, c'est comme Arthur de J.C. Satan, ce mec-là. C'est l'exemple, voilà. C'est, le but de l'émission, c'est aussi de dire ce genre de choses. Hein, donc si tu as des choses à raconter, je pense qu'il assume en plus. Moi, je l'avais interviewé, c'était pareil au Printemps de Bourges. Je sais plus quelle année, et il était 16h, il était déjà au whisky devant moi en train de siffler une bouteille de Jack. J'étais là, ok, il joue à 23h. Et à 23h, ouais, entre les morceaux, il avait du mal à articuler pour parler. Et quand il a pris sa guitare, il défonçait tout, quoi. Et il était trop fort. Et bah, c'est ça, quand même, un peu le rock encore. Et j'avoue que c'est pas un bon message de dire bah, défoncez-vous la gueule. Mais au final, ça donne sur scène quelque chose de sincère et d'honnête. Et au final, le rap ne fait pas ça, quoi. J'ai vu très très peu de concerts de rap.
Ou alors mal, en fait.
Ouais, ou mal.
De manière énervante. Mais après, pour revenir à Idols, je pense que il y a toujours une sincérité qui est là, mais après, ils se fâchent quand même avec leurs origines, en fait, d'où ils viennent, même le milieu indé. Moi qui les adore toujours, qui ai bien aimé l'album et plein de leurs morceaux, ben, j'ai pas du tout envie d'acheter leur vinyle, quoi, par exemple, parce que ça devient mainstream, en fait. Donc t'as pas envie de les soutenir spécialement, ça devient très impersonnel, en fait, comme relation au projet. Et en fait, dans l'indé, c'est ça qui compte, c'est le côté personnel et unique de ce que tu peux vivre avec un projet.
Ouais, clairement, de toute façon, je crois que tu parles d'Idols et tout le management autour, et que c'est un peu fake, blablabla, mais quand les gars se retrouvent quand même sur scène, ils font quand même quelque chose de, je crois, de sincère, vu qu'ils sont tout seuls avec eux-mêmes. Quand t'as un groupe live, voilà, tu joues ton truc sincèrement, et voilà. Mais c'est clair qu'aller acheter un album d'Idols à la Fnac ou Cultura, tu vas pas soutenir le groupe, tu vas juste soutenir le monde de merde dans lequel on vit.
On en parle du monde de merde dans lequel on vit ou quoi ?
On va faire une petite pause musicale avant, et préparez-vous. On a beaucoup de choses à dire sur ça, surtout en ce moment. Et on va écouter de la musique qui risque de coller à cette ambiance, hein, donc un peu de post-rock, ça fera pas de mal. À tout à l'heure sur Restless.
Thank you.
bientôt la fin de Log Story sur Restless. Donc c'est l'épisode 2 qui sera diffusé ce mois d'octobre. Hein. Là on est le 6, donc je vais devoir monter ça ce week-end. Ça va être encore un week-end intéressant. On est toujours avec Yannick et Juliette. Et pour un peu clôturer le dernier débat, une dernière discussion, on va parler d'un sujet... un peu complexe quand même dans le milieu de la musique quand on est extérieur pour l'appréhender, donc il faut qu'on fasse attention à pas trop s'emballer quand même, mais c'est les médias et leur fonctionnement. Et on disait en fait en off qu'on se désintéressait beaucoup des médias actuels et qu'on avait envie d'en créer de nouveaux. C'est pour ça Jeune Orange par exemple avec leur webzine ou Lux Story chez nous, c'est que ils parlent d'une réalité qui est peut-être la leur, mais qui n'est pas la nôtre. Et du coup, on ne se reconnaît pas dedans. Et je sais pas ce que vous en pensez de ça, ouais. Mais moi, c'est ce qui me gêne le plus.
Oui, Jeune Orange, c'est un fanzine papier, du coup, pas un webzine. Et ça, c'est ça qui est intéressant, et ce dont on discutait aussi, c'est que c'est important d'avoir quelque chose de physique qui donne... peut-être un peu plus de crédibilité et qui nécessite plus de travail de fond, en fait, pour sortir quelque chose d'imprimé. Et après, moi, j'avais un peu envie de faire un lien avec le sujet précédent. Donc, on parlait de se fédérer dans la musique et en Belgique francophone. Et en fait, se fédérer permet aussi d'avoir un espace de parole qui nous est donné parce qu'on est tout d'un coup plus légitime. Et le fait de ne plus être seul... intéresse peut-être plus les médias et aussi les politiques. Et donc, il y a un relais qui peut être plus intéressant de nos revendications, du fait de se fédérer. Mais oui, les médias, après, c'est un large sujet. Et comme tu dis, il ne faut pas s'emballer et trop être critique parce qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté, je pense. Et en fait... c'est compliqué de faire de donner la place à l'indé, parce que nous on a du milieu indé et on essaye d'avoir une bonne vitrine médiatique, parce que il y a quand même certains médias qui peuvent être un twist et un petit tremplin dans une carrière, mais c'est très difficile de comprendre aussi les mécanismes et d'avoir un bon timing en fait pour avoir cette vitrine.
J'ai l'impression qu'ils se perdent un peu, ouais. Ouais, vu que moi j'ai commencé dans les médias et la radio principalement, et j'avoue que c'est un des sentiments qui m'a poussé vers la porte de sortie aussi. Je voulais travailler dans la musique déjà de base, mais sur certains points ça m'amusait, je trouvais ça intéressant, mais je voyais que un des plus gros problèmes, c'est, et pourtant je suis un profond soutien d'Internet, mais l'arrivée d'Internet a vraiment cassé les médias, l'instantanéité. C'est ce qui tue en fait les médias, surtout musicaux, parce que une œuvre, un album, y en a très rarement qui, enfin, il y a très peu d'albums en fait dont tu fais le tour en une écoute. Et déjà, écouter un album 45 minutes dans l'ordre de la tracklist, c'est rare. Alors quand t'en as besoin 15 écoutes d'un album pour vraiment comprendre le propos de l'artiste, ça n'arrive jamais en fait. Et donc il n'y a plus de médias qui ont le temps de faire ça, et donc il n'y a plus d'articles intéressants vraiment de fond sur des projets.
Ouais, et puis il y a un phénomène, en tout cas j'en ai l'impression, de copiage, de voilà, il y a un petit buzz quelque part, et tout le monde va d'un coup parler de cet artiste, et ne rien dire d'intéressant en fait, c'est ça peut-être le problème, c'est que... Ouais, oui c'est ça, et donc moi ça m'est arrivé encore récemment, où on me demande une bio... absolument, qui était en anglais, il fallait la traduire en français, mais je me dis, mais voilà, les infos, elles sont là, en fait, en anglais, et il suffit de faire un travail journalistique de rédaction, en fait, et pas de copier-coller une bio en français. Donc ça, c'est une chose, et puis il y a le fait que c'est pas intéressant, en fait, ok, oui, on parlait de Damso ou d'Idols, oui, tout le monde est au courant que ça sort, mais pourquoi en faire un article en fait au bout d'un moment et prendre de l'espace qu'on peut donner à des projets qui ne sont pas connus? Et il y a pas, et c'est un problème de temps aussi, hein, il y a tellement de raisons qui font que être journaliste c'est compliqué à l'heure actuelle, mais nous on en souffre très fort, je pense, de cette omniprésence des gros artistes et de ce copiage de, on veut tous parler de la même personne sans faire de travail de fond en plus. Donc il y a des médias qui se distinguent, hein, c'est sûr, mais en tout cas c'est vraiment comme ça qu'on le ressent chez nous.
Y a, moi je vois aussi, enfin je sais que beaucoup de médias ont ce truc de copier. En fait pour moi c'est exactement le même procédé que pour d'autres domaines dans le journalisme. Par exemple l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, je sais pas si vous vous souvenez, en Écosse ils avaient chopé un mec, dépêche AFP qui dit qu'ils l'ont arrêté. Du coup tous les médias dans les 10 minutes disent qu'il a été arrêté et l'a démenti parce que c'était pas lui. Et en fait pour moi c'est la copie, c'est le même principe, c'est que vu qu'il faut être le premier sur un truc, dès qu'il voit l'article sortir, il se dit on est obligé de se caler parce que si nous on le fait pas, on va perdre de l'audience. Et c'est ça l'autre gros problème, c'est que la majorité des médias, ils sont en perte de vitesse totale depuis une dizaine d'années, que ce soit la radio, la télé, et les papiers, même internet, les blogs et tout. Les gens s'y désintéressent parce que maintenant tu as accès à l'information directement, et donc il y a une curation qui est de plus en plus dure à faire, et ils sont obligés de taper large, et donc des projets qui plaisent. Et je vois pas de solution à ça, à part sur le fait que on doit nous reprendre en main peut-être les choses et proposer des alternatives.
Oui, il y en a qui existent déjà. Il y a Médor ici en Belgique qui est un super média de fond qui lâche des enquêtes très intéressantes. Ou moi, quand je le reçois, je le dévore parce que c'est vraiment super intéressant. Il y a plein de journalistes qui font un travail remarquable et très courageux, quoi, de prendre ce chemin, de continuer à investiguer, de faire leur propre média. Je pense à Elisabeth de Bourse, qui ici a fait une curation pour une de nos playlists, qui met en avant que des artistes féminines, et qui est une journaliste qui a créé sa newsletter, qui s'appelle Mordant, qui a, avec l'aide de la RTBF et de je ne sais plus quel autre fond, mais voilà, qui a créé un podcast qui s'appelle Salatou. Enfin voilà, donc il y a plein de gens qui continue à se battre pour qu'il y ait un travail journalistique intéressant. Mais dans la musique, par contre, c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'il y a ce côté capital cool et buzz des gros artistes et qui fait du clic, en fait. Et donc, quand on a envie de lire quelque chose d'intéressant, il faut connaître le paysage médiatique plus indé de médias comme Tsugi ou Mono. En Belgique, Goutte Mes Disques, ouais, et voilà, donc il y a des gens qui font ça, mais encore une fois, c'est moitié bénévolement souvent. Je pense que Goutte Mes Disques, ils sont complètement bénévoles, et pourtant, c'est peut-être les critiques et les chroniques les plus intéressantes, et les plus tranchées, les plus osées, et c'est super, mais voilà, quelle est la place qu'on donne à ce genre de journalistes, les miettes, quoi, en fait. Rien du tout. Et c'est assez déprimant. Après, il y a quand même des tremplins médiatiques qui sont des objectifs pour nous. Par exemple, les KXP, c'est quand même le meilleur exemple. Où chez nous, on a le groupe Slift en booking Belgique, plus pour très longtemps sans doute, mais dû à la KXP qui a eu un immense succès, qui a propulsé leur carrière. Donc il y a un rôle à jouer des médias qui est énorme, et ce que eux font, c'est génial parce que c'est une super radio, et les sessions sont suivies par tellement de gens et sont tellement qualitatives dans la programmation.
C'est clair, c'est vrai que faut que les médias se réinventent. Moi, je pense beaucoup, on l'a vu en conférence Civias, donc Civias, t'en parlais, collectif, pour parler de la place des femmes dans le milieu de la musique. Elles ont sorti leur premier rapport, et donc il y avait une conférence avec Lola Levent, qui est journaliste musicale, et qui est en train de changer aussi le journalisme musical et ce que ça implique en faisant des enquêtes, donc vraiment du journalisme d'investigation sur des affaires de harcèlement, viol dans le milieu de la musique. Et je pense que ce genre de d'action sont pour moi des indicateurs qu'il se passe quelque chose depuis un ou deux ans, et le confinement et le Covid va accélérer ça. C'est que des gens qui n'avaient pas forcément le temps d'écrire vont avoir plus de temps parce qu'ils sont bloqués chez eux, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, parce que il y a cette caricature en France, je pourrais moins en parler en Belgique, mais ça doit être pareil, où tous les médias sont détenus par les 10 mêmes personnes, et vraiment c'est pas du complot, hein, c'est assez facilement vérifiable, ce qui crée aussi cette politique globale de l'argent. Enfin, on parlait de Gutmédis qui sont pas payés, c'est ça le problème, c'est que les gens qui sont payés actuellement, c'est pour mettre en valeur des marques, c'est pour vendre de la pub, et c'est tout, parce que c'est le seul moyen d'être rémunéré maintenant dans les médias. C'est la publicité, et c'est là tout le problème. À partir du moment où ton salaire est payé par la publicité et plus par les personnes qui achètent, en fait, tu obéis plus aux mêmes personnes. Et c'est pour ça qu'un média comme Mediapart, je sais pas si vous y êtes intéressé, mais Mediapart est en train de se démarquer. Ouais, bah Isil, depuis une semaine, je me fais les redifs de live Twitch d'Usul de 4-5 heures où, en fait, il prend un débat politique et il s'arrête toutes les 30 secondes pour débriefer. C'est trop bien. Et donc, Mediapart, pour moi, est un média qui a lancé cette nouvelle vague où les gens réachètent, en fait, réinvestissent dans de l'information. Et le monde diplomatique, pour moi, reste la grosse référence dans l'information générale. Et il manque ça dans la musique, en fait. Un média musical qui avec une équipe de gens payés et rémunérés, où les gens sont prêts à acheter ça, quoi. Et je le vois pas encore. Donc c'est peut-être à créer.
Bah écoute, ouais, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers un fanzine où on s'y met tous avec l'équipe à 12 mains à créer le petit truc... papier qu'on va distribuer en Wallonie, mais c'est gratuit.
C'est peut-être là le problème aussi de travailler toujours gratuitement et offrir du vraiment quelque chose qui a été réfléchi pendant des mois, et tu dis il y a 12 mains, quoi. Enfin, 12 mains, ça veut dire aussi personne. Ok. Et voilà, et ça me rappelle Lorraine Bastide, que j'ai entendu ce matin sur la première qui propose de super émissions d'ailleurs autour de la musique, qui disait voilà, le problème c'est l'offre gratuite aussi de contenu de qualité, et elle parlait de ça dans le cadre du féminisme, où en fait tout l'espace donné aux féministes, c'est les podcasts, c'est les réseaux sociaux. Oui, c'est super, on sait s'exprimer, on sait parler, mais qu'est-ce qu'on nous donne, encore une fois, il n'y a pas la notion de travail et de reconnaissance, en fait. Bon, après, c'est un autre débat, mais voilà.
Oui, je disais, pour cette question de gratuité, surtout envers les femmes, en tout cas, je vois bien avec Aurélie qui chante dans notre groupe, elle est souvent appelée pour aller parler à gauche, à droite, parler de ses expériences, faire des workshops et ce genre de trucs. C'est gratuit. Elle le fait gratuitement, alors que là où un mec le ferait, il serait payé.
Exactement, et c'est une question qui avait été soulevée à la présentation du rapport Civiès par une fille de Blédart, je ne sais plus c'était quoi son prénom, mais voilà, qui est une association, enfin une ASBL, je pense, qui propose des workshops de DJ. Non mix, donc exclusivement féminin pour cette question de safe space, qui est vraiment un vrai truc, en fait, quand on est une fille et qu'on veut s'exprimer et créer. Et en fait, elle disait, voilà, ici, moi, je suis payée, et cette notion de travail, c'est important, quoi. C'est pas parce que c'est un vrai sujet, c'est des gens qui sont formés, qui sont investis, qui ont lu des bouquins, qui sont des experts, et bien sûr qu'ils doivent être payés. On n'est pas dans le cadre d'une promo d'album ou d'une promo de je ne sais quoi, mais c'est vraiment des experts qui viennent parler, donc ça mérite un salaire. Et là, c'était le cas, et c'était super important.
Ouais, j'en discutais encore hier avec Hélène Jambon, qui est une artiste ici française, qui a été délocalisée en Belgique, qui est illustratrice, et elle défonce. Et elle va réaliser un poster du prochain fanzine. Et voilà, nous on défraie les gens à hauteur de... c'est pas grand chose, mais on les défraie quand même, les gens qui effectuent un boulot en dehors de nous, nos 12 mains. Et elle était là, ouais, mais c'est déjà super cool. C'est vraiment, quand les gens me demandent un projet, ces gens, ils sont là, oui, mais tu auras de l'exposition, ça fera de la pub, et tu manges pas avec ça, quoi.
Mais c'est tout le problème, je voulais préciser ce truc-là, de la gratuité. En fait, sur Internet, ça fait 10-15 ans qu'il y a un adage, c'est quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et c'est extrêmement vrai, en fait, depuis le début. Malheureusement, il y a eu peu de gens qui sont intéressés à cette phrase, mais du coup, beaucoup de gens sont habitués à consommer des choses. Parce que le mot consommer, au final, n'est pas non plus trop péjoratif. Ça fait bizarre de le dire, mais c'est de la consommation. Il y a beaucoup de gens qui ont consommé gratuitement et qui ne se rendent pas compte que tu peux pas, en fait. Je vais pas mentir, hein, ça m'arrive de télécharger de la musique, mais à côté de ça, je vais quand même investir de l'argent là-dedans. Parce que c'est des gens qui travaillent en fait derrière, et nous on met pas l'argent dedans, personne le mettra pour nous, et il faut reprendre conscience de ça, quoi.
Ouais, il faut qu'on défende notre milieu aussi, en fait, au bout d'un moment où nous, on est tous des personnes qui ont un rapport à l'argent, on ne vit pas, pas spécialement, c'est pas important, en tout cas c'est pas une directive dans notre vie, sinon on ferait pas ce qu'on fait, je pense. Mais en fait, si on veut avoir une place, une légitimité dans cette société de consommation, bien sûr, il faut qu'on défende notre travail, et même à hauteur de 1 ou 2 balles, de faire payer les choses et pas tout offrir gratos, parce qu'on pousse le vice encore plus loin, en fait, si on encourage ça. Après, je comprends, parce qu'on a, c'est toujours le dilemme de, on veut que ça soit lu et découvert, et en même temps... Donc voilà, et c'est souvent ça qui l'emporte, en fait, hein, dans nous, tout ce qu'on fait. Oui, moi, le nombre de fois où j'ai fait des envois, où j'offre des vinyles, des CD promos et tout, parce qu'on veut que les gens nous découvrent et on veut être sympa, mais en fait, c'est de l'argent, hein, tout ça, et voilà.
Et là, on fait ça gratuitement, hein, l'émission.
Quoi ?
Non. D'ailleurs, ce podcast vous coûtera 5 euros.
Je vais vous payer en café et en bonnette.
Le problème, c'est qu'on est pauvres.
Non, mais... Ah, mais après voilà, Restless, Pierre, on se connaît, on en parle suffisamment, et je sais que s'il y avait des budgets, parce que les web radios c'est comme les podcasts, hein, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de pub, donc,
encore une fois, moi je suis très heureux d'être présent aujourd'hui, sur la bonne volonté, sur l'envie de parler et de partager nos expériences.
Moi, hein, c'est pareil, je vais monter, je vais passer 4-5 heures ce week-end à monter cette émission, et c'est pas grave. Je pense que c'est peut-être ça aussi, que le public ne cerne pas vraiment. Ça peut, c'est compréhensible de se dire, ouais, la musique ça génère de l'argent, mais non, nous on génère pas d'argent, on vit tous sous la, je pense, proche du seuil de la précarité, voire en dessous, et on se plaint pas, et c'est ça le truc de la culture, et pour moi c'est une des raisons pour laquelle actuellement, dans la crise actuelle, la culture est très mal défendue, c'est que c'est un milieu qui se plaint pas. On a toujours eu l'habitude de se démerder, de vivre avec très peu d'argent, parce que c'est aussi politique, mais à un moment, ça, c'est les conséquences. C'est vu qu'on s'est jamais plaint et qu'on n'a pas eu de fédération de gens qui nous représentaient auprès d'autres instances, en fait, on nous écoute pas, et c'est pour ça qu'en Belgique, le mouvement de fédération est super intéressant. Et pour moi, Civias, au centre de ces fédérations-là, c'est encore mieux, parce que ça permet de poser beaucoup de questions. Et d'ailleurs, la France est en train de, pas copier, mais de s'inspirer pas mal de Civias avec Change de Disque, qui est un peu le même principe. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose de mélanger les luttes et pour la représentation des femmes, mais aussi écologique et aussi sociale, en fait. Enfin, pour moi, c'est l'avenir et de la politique aussi.
Oui, c'est ça. Et pour revenir à la notion d'argent et de travail, surtout, en fait, moi, c'est pour ça que ça me tient à cœur de vulgariser... notre milieu. Après, c'est agréable que ça soit un peu opaque. Je pense que c'est, il y a une question de fascination aussi pour le milieu de la musique et tout, qui en vrai, c'est pas très très glam, quoi, du tout. On s'amuse bien, mais voilà, on travaille surtout, en fait, et c'est la reconnaissance des boulots qu'on fait et qui dans en fait l'opinion publique, je pense, les gens connaissent pas ce qu'on fait, ils savent pas ce que c'est un booker, un manager et un éditeur, encore moins. et donc je sais pas, il faut valoriser nos métiers et dire au bout d'un moment, on travaille vraiment. Ici, tu parlais de monter, monter, ça nécessite de s'être formé déjà avant pour savoir le faire, sur le tas ou de manière plus officielle. Et puis, c'est 5 heures que tu passes à faire un rendu qui va être disponible pour tout le monde gratuitement, ce qui est super si on nous écoute, mais c'est du travail, quoi, derrière. Et donc, c'est normal qu'on soit payé au bout d'un moment, qu'on soit aidé et que... et que voilà, ça passe par des subsides, quoi, de cette façon-là, vu que c'est très difficile de vendre des albums et de fonctionner en fonds propres. Ben, il faut nous aider parce qu'on est important, parce que tout ce travail qu'on donne, il est super important pour les gens, pas que les gens qui aiment l'indé, mais les gens en général.
C'est un beau mot de la fin, je pense qu'on va pas trop tarder à clôturer, mais je voulais... du coup réagir parce que ce que tu dis, je suis totalement d'accord, et mais j'ai mis du temps à en venir à là parce que mon éducation, moi, donc, est plutôt liée au communisme ou à l'anarchisme, et Proudhon disait la propriété c'est le vol, et il y a un peu de ça, je pense. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à accepter l'idée d'être payé pour mon travail, parce que l'idée de travailler gratuitement et de donner du temps gratuitement, j'aimais bien ça, cette idée là mais c'est vrai que arrivé à bientôt 30 ans et j'ai pas de quoi m'acheter un synthétiseur par exemple, ça devient frustrant, et je prends conscience de ça, et qu'au final le fait de travailler gratuitement, il y a beaucoup de gens qui en ont profité, et c'est ça le problème aussi, et c'est pour ça que reprendre le contrôle en demandant d'être payé, ce sera l'étape, je pense, à venir de nos milieux et de notre métier. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Yannick, pour clôturer. Pas forcément sur ça, si tu avais.
Non, mais écoute, je suis très content d'avoir participé à l'expérience des podcasts. C'est mon premier podcast. Je suis pas un grand consommateur de podcasts, comme je te le disais précédemment. Donc voilà, j'espère que.
Attention, des gens vont te reprendre certainement. Hein. C'est un podcast avec de la musique, donc en fait, ça n'a pas de sens de dire ça. Oui, c'est ce que je dis. C'est normalement un podcast, il n'y a pas de musique. Mais parler de musique sans en passer, je trouvais ça quand même très bizarre.
On peut siffler au final. Ou je veux de la flûte. Non, mais écoutez, merci beaucoup de m'avoir reçu dans vos bureaux. Et de toute façon.
Avec plaisir. Ouais. Moi aussi, c'était. Ah, pardon, je t'ai coupé.
Non, vas-y.
J'allais dire que c'était aussi ma première fois de podcast, et que c'était chouette de partager ça avec Yannick, qui est une personnalité très apaisante et qui a plein de choses très intéressantes à dire. Et je pense que c'est important de donner la parole à ce genre de personnes qui travaillent tous les jours.
C'est un peu le but. J'avoue que tu étais dans les premiers noms envisagés après Lysistrata, parce que on essaie d'inviter des gens qu'on connaît quand même un peu. Parce que c'est plus simple pour discuter et libérer aussi, ça facilite les choses, et en plus on est quasiment voisins de bureau, et dans les musiques, je pense qu'on a pas mal de, on partage beaucoup de choses, et c'est important de s'entraider, justement, en fait on en parlait tout à l'heure, et notamment par ça, même si on est écouté par 10 personnes, il y a 10 personnes qui, peut-être une qui va se dire tiens, je n'orange sais quoi, et c'est tant mieux, et je pense que on a tout intérêt à fonctionner comme ça. Donc merci d'être venu.
Merci à vous.
Et on en refera peut-être d'autres plus tard, je sais pas. Pour l'instant, on va se concentrer quand même sur le milieu belge. Après, on verra si on s'ouvre. Mais on risque d'avoir Rémi de la Jungle, je pense, comme prochain invité. Qui est programmateur, lui. Mais en tout cas, merci d'être venu en tant que membre de Cocaine Peace et Booker à Jeune Orange. Et bon courage pour la suite et pour le fanzine, parce que très beau projet.
Merci,
salut.
Bonne journée sur Restless, bonne soirée. Hein, si vous écoutez sur la diffusion directe, sinon c'est en podcast. Et donc n'hésitez pas à aller écouter toute la journée Restless. Les audiences sont en train d'augmenter et ça fait plaisir à Pierre. Allez, salut. Restless.
À quoi tu penses?
Restless. It's just music.
This will twist your head.
Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça?
Restless.
Restless.
Restless.